Et cette année, Michel Blanc a organisé donc un cycle sur Auguste Comte et le saint-simonisme, parce que Auguste Comte, comme les saint-simoniens, sont parmi les inspirateurs de cette bibliothèque. Michel, ce soir, a double casquette, puisque non seulement il a organisé le cycle, mais il parle ce soir. Donc on est ravis d'entendre Michel, qui est sociologue de formation, qui s'intéresse maintenant depuis quelques années à Auguste Comte. Je pense qu'il va vous expliquer pourquoi, donc je ne vais pas m'étendre davantage. Et je voulais souligner aussi que c'est une de nos nouvelles recrues, et nous sommes très contents d'avoir des gens aussi énergiques parmi nos nouvelles recrues. Je voulais également dire que le colloque a porté ses fruits et on en est ravis, puisque nous venons d'apprendre qu'une petite bibliothèque populaire dont on avait parlé au colloque, on avait parlé des bibliothèques du Jura entre autres, eh bien grâce à vous a appris la nouvelle, a appris qu'on parlait, enfin en tout cas pas la bibliothèque, mais la commune a appris qu'on nous avions parlé de son ancienne bibliothèque populaire, et on va pouvoir faire circuler ce soir l'article du foyer rural de cette commune portant sur la bibliothèque populaire. C'est génial, c'est ce qu'on voulait, parce que vous savez que nous sommes parfois un peu désolés que finalement l'histoire de la bibliothèque populaire soit conservée par ce lieu qui est génial, qui est superbe, mais qui ne reflète pas la réalité des milliers de bibliothèques populaires qui pouvaient exister en France au XIXe siècle. C'est-à-dire que ces bibliothèques populaires, souvent, c'était deux planches en pain, 20 ou 30 livres, qu'entretenait l'instituteur du village, le sabotier du village, etc. Ici, on est dans un lieu très différent, qui reflète en fait les généreux donateurs que nous avons pu avoir à Paris, Georges Sand, Louise Michel, et des gens très riches, qui nous ont donc donné de très beaux livres. Mais une bibliothèque populaire, c'était plutôt des ouvrages modestes, reliés en noir, et beaucoup moins jolis à regarder que notre bibliothèque.
Donc vous... bon, merci tout le monde d'être là. Je dois avouer que ça m'a donné pas mal de fil à retordre, cette histoire de vous présenter Auguste Comte, parce que, à la fois, j'y suis beaucoup dedans, par intermittence, évidemment. Je participe au centre de la recherche de la maison Auguste Comte, en même temps que la bibliothèque, bien sûr, des amis d'instruction. C'est aussi difficile de trouver la bonne articulation, faire en sorte que ce soit compréhensible par quelqu'un qui ne connaît pas trop exactement qui était Auguste Comte ou ses idées, et puis des gens qui connaissent déjà, qui ont déjà étudié, et qui sont demandeurs de choses plus pointues, des choses comme ça. Il y a aussi le fait que, par exemple, sur le plan biographique, beaucoup de choses ont été faites, surtout sur Auguste Comte. Au deuxième semestre, j'aurai une autre conférence, cette fois-ci sur Clotilde de Vaux, où là, on peut repérer des choses qui ont été faites. D'ailleurs, on parle un petit peu, il y a un petit article là, que j'ai fait, là, qui est dans le dernier bulletin de la maison Auguste Comte, qui maintenant, au passage, est très contente de faire un partenariat avec la Bibliothèque des Amis d'Instruction. Elle a consacré toute une page aussi sur notre colloque, et David Labreur, qui ne peut pas venir ce soir, qui est responsable du centre de documentation, il est très... partie prenante pour faire des choses ensemble, et il y a des connexions, alors ça c'est un terme qu'utilisait beaucoup Auguste Comte, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais qui sont très intéressantes. Donc sur Auguste Comte, on a eu des choses déjà qui ont commencé, hein, si vous avez le programme, on a eu Annie Petit sur les bibliothèques positivistes, qui était tout de suite bien marquée sur le rapport qu'il y a entre les bibliothèques positivistes et les bibliothèques populaires. On a eu Carole Christen sur Auguste Comte et l'éducation populaire à travers l'exemple, on pourrait dire, de l'enseignement de l'astronomie. L'enseignement de l'astronomie, c'est très important pour Auguste Comte parce que, assez rapidement, il va se mettre dans l'idée que l'enjeu, c'est de toucher les prolétaires. Et pour toucher les prolétaires, pour les faire venir aussi tout simplement dans les conférences, c'est pas par l'enseignement des mathématiques, qui est quand même beaucoup trop abstrait et qui a moins de curiosité. La plus grande curiosité, finalement, c'est exactement ce qui va se passer. Il arrive à faire des conférences, Carole l'a montré, où il y avait 300 personnes, etc. Il arrivait quand même à mobiliser un public ouvrier, un public, ce qu'il appelait de prolétaires, parce qu'il y a une grande curiosité à l'époque aussi, c'est toute l'époque. Il n'était pas le seul, Auguste Comte, il l'a montré, il y avait Arago, il y en avait d'autres, etc. Après, il y a eu Flammarion. C'est toute une époque où il y avait quand même une interrogation sur qu'est-ce qu'on pouvait savoir grâce aux sciences exactes. Et Comte, il en profite pour faire de la philosophie, c'est-à-dire pour dire, attention, voyez, ici, ce n'est plus de la théologie, ce n'est plus une référence à l'existence ou pas d'un être suprême qui gouverne le monde, ce sont les lois de la nature telles qu'on peut les observer et les calculer. Hein. C'est la mise en place des mathématiques qui, après, par construction, parce que c'est toute la construction de compte, deuxième niveau, c'est l'astronomie, où on mêle l'observation et le calcul. Et à cette époque, il y a quand même cette histoire de la prédiction, je crois, c'est la planète Neptune, hein, je ne sais plus exactement, où il a été calculé, et à quel endroit, et après elle a été observée à l'endroit qu'elle avait été calculée. Donc c'est quand même une époque où on croit beaucoup quand même à un espoir du point de vue de l'enseignement populaire à travers des disciplines comme l'astronomie. Voilà. Alors après on aura la religion d'humanité, vous verrez, hein, la prochaine fois, puis après on aura sur le rapport avec Saint-Simon, cette fois-ci, et la dette vis-à-vis de Saint-Simon. Et je me suis dit à un certain moment, il faudrait quand même présenter un peu aussi l'homme et l'œuvre. Bon. J'ai pensé m'appuyer sur, et là j'ai amené son bouquin, l'ancien président de la maison Auguste Comte, qui s'appelle Bruno Gentil, et qui a fait, on va dire, la dernière bibliographie moderne, hein, vous voyez, et puis c'est quand même consistant, je pourrais en parler deux mots, donc je me suis appuyé dessus, pas mal quand même, et puis là c'est très intéressant parce qu'il a fait quelque chose aussi avec sa fille, il a tout simplement eu l'idée d'utiliser le fonds des archives qui est très important à la maison Auguste Comte, de la correspondance entre Auguste Comte et sa femme Caroline, on verra un petit peu dans sa vie le rôle que joue sa femme. Ben là aussi, c'est un petit peu que j'ai tout à l'heure, un espace de liberté qu'il y avait aussi à cette époque. Hein. J'ai évoqué par rapport à Clotilde de Vaux, mais là, il y a eu par rapport à Caroline Massin. Il reste d'ailleurs probablement par rapport à Caroline Massin. Caroline Massin, ça permettait de réévaluer cette femme qu'Auguste Comte, on va dire, il a à la fois aimée, il a plus aimé que ce qu'on pense, même qu'il l'a reconnue après, parce qu'après, évidemment, il a été en conflit avec elle. Donc après, il y a eu une scission, d'ailleurs, autour de on va dire, les partisans. Par exemple, Littré, qui est resté un grand ami et partisan de Caroline, et du positivisme, on va dire, non religieux. Et puis, Auguste Comte, qui va vers ce qu'il appelle le positivisme religieux, qu'il appelle aussi le positivisme complet. Tout ça pour vous dire que, rapidement, qu'on a des travaux biographique. Alors, je me suis fait un petit plan. Dire deux mots sur le sens peut-être de l'argumentaire du cycle. Préambule bibliographique, éventuellement, là aussi, j'essaierai de dire quelques mots parce que si vous voulez faire des recherches pour savoir des ouvrages qui ont été déjà écrits. Après, les grandes dates. Alors, finalement, je me suis dit, tu vas prendre les grandes dates, les événements, et puis tu vas essayer plutôt de faire des exemples à partir de la correspondance. Je vais vous lire des morceaux de correspondance parce que c'est peut-être le plus intéressant, finalement. Et puis, je voulais faire une courte conclusion sur la posture philosophique d'Auguste Comte et la portée, etc. En tout cas, une chose qu'on va dire, c'est qu'on ne peut pas le comprendre si on le dissocie de sa vie. C'est lui-même qui le revendique. Parce que lui-même, il a mis en scène toujours sa vie par rapport à son œuvre. Il a toujours utilisé des éléments de sa vie pour construire son œuvre, pour justifier son œuvre. Il a organisé en quelque sorte aussi, parce que scénariser sa vie, c'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est pour la richesse de la maison Auguste Comte au point de vue archive, c'est qu'il a conservé toutes les lettres, il les a toutes datées, archivées, voire recopiées. Il a lui-même gardé ses notes, ses factures, vous voyez ce que je veux dire ? Ses billets d'entrée, je sais pas moi, l'opéra, des choses comme ça. C'est pas exhaustif, il y a probablement des choses qui ont été perdues, qui étaient gardées par les disciples, parce que s'il n'y avait pas eu des disciples, évidemment, il y aurait beaucoup de choses qui seraient complètement évaporées. Mais en tout cas, lui, il a vu presque une sorte de maniaquerie, et vous savez qu'il avait cette formule qu'il a appelée de vivre au grand jour, d'abord appliquée à lui-même, hein, c'est-à-dire que se donner lui-même en exemple, pour entraîner les autres, en quelque sorte, sur un chemin. Alors, on va utiliser un terme qu'il utilisait, régénérateur, parce que il était, alors, c'est là qu'on verra tout à l'heure, j'anticipe déjà sur la fin. La discussion, c'est de quelle époque il est. Ben, d'abord, il est bien de son époque. Il est bien de son époque. C'est avant tout un utopiste. Là, on va redire la lignée. Là, on a vu Fourier, Proudhon, enfin, je ne sais pas, là, je mets un petit peu en vrac, tout ça. Vous voyez l'argumentaire qui est ça. Je prends cette phrase-là. Le magistère conscient pointe avec sa force, sa faiblesse, avec son omnipotence, sa déséutude. Le triple déchirement qui brise l'unité tant recherchée de la pensée, de la vie et de l'œuvre, nous rend cet homme qui est bien de son temps, etc., particulièrement attachant. Donc, vous voyez, il y a trois termes. Alors là, on va dire qu'il faut retenir au moins trois termes. C'est un peu comme des pistes d'analyse, il me semble. D'abord, magistère. Alors, Comte, c'est l'homme du magistère du début jusqu'à la fin. C'est un pur produit de l'école, on va dire de l'école républicaine, qui a eu des professeurs remarquables, qui lui-même est devenu un professeur remarquable, passionné d'enseignement, de pédagogie, des choses comme ça, et qui a toujours considéré que le grand enjeu, c'était l'éducation. C'est là qu'on le retrouve avec l'éducation populaire, et puis, à travers l'éducation, si deuxième axe, mobiliser l'opinion publique. Oui. Car c'est quelqu'un qui veut agir. est très optimiste. Alors, je leur dirai aussi quelques mots peut-être tout à l'heure. Il pense que les choses sont possibles, nécessaires et possibles. Magistère, il y a une mission, il y a un sacerdoce. On va vers un pontificat. Car vous savez qu'Auguste Comte, à un certain moment, devient pontife de la religion, de l'humanité. Il invente une religion parce que c'est un cheminement logique pour lui. J'ai suivi un séminaire de Philippe Régnier, il y a peu de temps. Il a bien vu une chose. Il dit Saint-Simon. On dit aussi, c'est le nouveau christianisme, etc. etc. Mais pourquoi ? À l'époque, il n'y avait pas tellement de structures politiques, des partis politiques, il y avait un système censitaire, etc. etc. Ce qui fait que quand on avait de l'ambition, la seule chose qu'on pouvait faire pour mobiliser les masses, c'est-à-dire penser à agir, c'est finalement inventer une religion. Régénérer, plus ou moins, ils ont tous pensé un peu la même chose. Leroux a inventé le terme « religion d'humanité » avant Auguste Comte. En 1834, il en parle déjà dans son article « Bonheur » de son encyclopédie. Il reprend ça en 1840. C'est lui-même qui fait le premier ouvrage qu'il appelle intitulé « La religion d'humanité ». Alors c'est vrai qu'il ne l'a pas structuré comme Auguste Comte, parce que Auguste Comte l'a bien structuré. Mais tout ça, c'est pour vous dire que c'est dans l'air du temps, parce que ça correspond à une possibilité, mais presque une nécessité du temps. Il n'y a pas d'expression de parti politique à cette époque de masse, de type laïque. L'action de masse se fait dans un esprit religieux. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a de la religiosité. Si Auguste Comte, il y en a d'ailleurs. Il est très très compliqué par rapport à la religion d'ailleurs. Bon. Pontificat, enseignement, maître à penser, disciple. Auguste Comte avait des disciples d'ailleurs. Il a beaucoup de défauts, Auguste Comte, il faut quand même le dire. Hein. Il ne veut pas faire de la géographie, là, loin de là. Il ne pouvait avoir que des disciples. Si, quand il écrivait des lettres, il écrivait à Stuart Mill, il disait, voilà, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis, etc. Mais Stuart Mill, illitré à tout ça, ils ont assez vite compris qu'il fallait qu'il soit de l'avis de Comte. Et au bout d'un certain temps, bien sûr, les choses n'ont pas forcément pu durer. Auguste Comte n'était pas dans une perspective de recherche en commun de la vérité. Non, il était dans une perspective prophétique. Il cherchait comme un prophète de la vérité qu'il allait ensuite enseigner toujours ce magistère aux autres. J'ai trouvé et donc vous allez profiter. C'est qui le ringardise d'une certaine façon, je crois qu'on peut le dire. Mais pas complètement. Comme vous savez, il faut toujours dialectiser. Alors, déchirement, échec, qu'est-ce qu'on peut mettre là derrière ? Éclatement, contradiction, crise. Lui dira par exemple, son terme c'est insuffisante élaboration, parce qu'il faut voir le vocabulaire d'Auguste Comte. C'est fleuri, insuffisante élaboration. Il reconnaît, il a plein de déchirements. Quand j'ai dit triple déchirement, on peut voir qu'il y aura un déchirement dans sa vie. Et comme sa vie privée a un rapport avec son œuvre, il faut bien voir la connexion. Dans sa vie, par rapport à sa propre famille, situation compliquée avec son père, qui est un père autoritaire, qui est un père qui finalement ne le soutient pas dans tellement, qui est vieux jeu, enfin, très en révolte avec le père, c'est très intéressant. Puis après, il trouve un autre père, on va dire, qui s'appelle le père Saint-Simon. Mais là aussi, il va être en révolte avec le père, plus ou moins. Par rapport aussi aux institutions scientifiques et en particulier à l'école polytechnique. Vous savez qu'Auguste Comte est un brillant élève qui va rentrer à 16 ans à l'école polytechnique. Il rentre quatrième sur la liste nationale, mais premier sur la liste du Midi. Les trois premiers devant lui, c'est des Parisiens. Donc il est le premier provincial d'un milieu modeste, de petit fonctionnaire, le père fondé de pouvoir à la recette générale de l'Hérault. Ville natale d'Auguste Comte, c'est Montpellier. Hein. Donc c'est un garçon brillant, mais il aurait dû devenir prof. La Polytechnique ou la Collège de France, une institution comme ça, il en a rêvé toute sa vie. Mais toute sa vie, il a été barré. Il a fait aussi en sorte de l'être. Hein. Parce que naturellement, il est allé bille en tête. Il est allé bille en tête, il a attaqué très très vite les sommités, il a prétendu qu'on lui enlevait son dû, etc. Et en face de lui, il avait aussi des compétiteurs, car les chaires, pour obtenir un poste, il fallait être élu. Et il avait en face de lui des compétiteurs importants. Et puis, il a eu un deuxième handicap. C'est simplement qu'Auguste Comte, il a mentionné les mathématiques, mais au fond, il n'a pas énormément fait de recherches mathématiques. Et il a fait des recherches philosophiques. Alors, c'est ça, c'est son originalité. Il a introduit, on va dire, la philosophie des sciences, la philosophie des mathématiques et tout. Or, quand on faisait le recrutement, et d'ailleurs, vous en avez tout à fait conscience, hein, l'équipe de les recruter à l'école polytechnique, quand on leur disait, oui, mais vous recrutez des gens, certes célèbres, qui ont fait des recherches, de nombreux, des mémoires, mais c'est des mauvais pédagogues. Mais eux, ils disaient, oui, c'est peut-être pas des très bons pédagogues, de toute façon, les élèves sauront s'adapter, mais ils font le renom de l'école. Il y avait une stratégie qui était de faire le renom de l'école. Et Auguste Comte, on considérait qu'avec sa philosophie positive, ses idées un petit peu oiseuses, et puis aussi, n'oublions pas que j'étais vu à travers le cours d'astronomie, il avait dit carrément qu'on pouvait se passer de Dieu. Or, à l'époque, l'école polytechnique, on était quand même censé pratiquer hein, la religion. Il cadrait pas bien. Puis bon, il a fait tout ce qu'il fallait. Bon. Alors, l'école polytechnique, c'était problématique. Sa vie maritale, très problématique. Il a aimé une femme, remarquable, cette femme, encore une fois, je le pense. D'ailleurs, cette femme était saint-simonienne. On peut voir à travers la fin ce qu'elle est devenue, au fond, qui elle était, quelque part. Certes, elle n'avait pas pu faire beaucoup d'études, mais à la fin, elle suit les cours, elle s'intéresse à saint-simonisme, elle est proche de Littré, elle est proche aussi de Fauvetti. Fauvetti, qui est chez nous des bibliothèques populaires, qui est aussi un franc-maçon important, mais très important, moi j'ai revu depuis, beaucoup plus important qu'on y pense, car il avait avec Massol toute une discussion. Fauvetti va dire, c'est la maçonnerie qui va faire la religion de l'avenir. Il va avoir de l'influence à son époque pendant un certain temps, y compris sa femme. Alors sa femme, Jeanne d'Héricourt, qui est l'actrice Maxime, qui était un plus ou moins une concurrente de Rachel dans le théâtre, elle n'a pas duré extrêmement, elle n'a pas laissé un très grand nom, mais... Elle était grande maîtresse d'une loge d'adoption, elle était la femme de Fauvetti. Ils ont été les premiers à vouloir tenter, et un certain temps ça a marché, une sorte de loge mixte, enfin une loge où les femmes sont aussi à part entière dans la maçonnerie. Or ça, c'est bien avant 1894, c'est-à-dire l'entrée en maçonnerie de Maria de Rheim avec le droit humain. Hein, là, on est dans les années avant la Commune, hein, 1870. Peut-être que Madame Comte, elle était malade, etc., etc. Mais là, elle était dans ces cercles-là, elle était même protégée par ces cercles. Et donc, elle avait fait tout un cheminement intellectuel. Et d'ailleurs, elle était pauvre, elle n'avait pas beaucoup d'argent, et Littré l'a soutenue, etc., autant qu'il a pu. Alors, cette Madame Comte, cette Caroline Massin, je vais quand même dire quelques mots. Comte l'aime beaucoup parce qu'elle est jolie, mais il y a une chose qui l'embête, c'est qu'elle lui résiste. Elle est très indépendante, elle a du caractère. Et puis, il y a un problème d'argent, qu'il y a toujours eu chez Comte, qui s'est assez peu soucié de l'argent. Ça me fait penser à Lamartine, c'était pareil, Lamartine aussi ne se souciait pas de l'argent, c'est bon passant. Bah oui, mais elle avait les pieds sur terre. Et donc, elle poussait Comte à réussir dans la vie. Et elle le dit à un moment, elle veut me transformer en je sais pas quoi, en académicien, ceci, cela. Mais non, elle veut tout simplement qu'il rentre, professeur, comme il peut, comme il doit pouvoir. C'est elle qui le pousse à faire son traité, d'ailleurs, il a fait un traité de géométrie, parce que comme il n'a jamais fait aucun traité mathématique, il dit je vais en faire un. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait tout à fait un traité comme il aurait fallu qu'il fasse, etc. C'est toujours fait comme une situation d'échec par rapport à ça. Comme s'il a toujours fait en sorte de ne pas arriver à l'école polytechnique parce qu'il avait autre chose à faire qu'à enseigner à l'école polytechnique. Attention! C'est compliqué. L'école polytechnique, il y a enseigné, mais il y a enseigné qu'à titre de répétiteur. Répétiteur, vous savez, c'est ceux qui font l'école. Les étudiants devaient passer deux fois par an, en fait, tout ça. Donc, plus que deux étudiants par semaine, mais chaque étudiant devait passer deux fois par an. Bon. Et il faisait l'école, et puis il a été examinateur. Il a été examinateur à l'école polytechnique d'entrée. Mais là, pour ça, il a voyagé. Mais pas longtemps, examinateur. Je vous donnerai les dates tout à l'heure, si vous voulez. Tout ça, ça n'a pas duré très, très, très longtemps. Avant, il y a eu des problèmes, tant qu'il n'était pas répétiteur, et après, il a eu des problèmes. C'est pour ça qu'après il a mis en place, avec, je ne sais pas si vous savez déjà, avec ses disciples, il a été aidé d'abord par des positivistes anglais à travers Stuart Mill, qui se sont assez vite découragés, ils ont aidé un an, on va dire un an et demi, puis après ils se sont découragés, mais après il a eu la chance d'avoir Littré pour l'aider, pour créer ce qu'il appelait le subside positiviste, c'est-à-dire tout simplement que bah, vous êtes d'accord avec nous, avec moi surtout, bah, faites en sorte que je puisse vivre, quoi. On va faire des souscriptions, et il faut donner ce qu'on peut. Tout ça, c'était pour vivre. Attention, Auguste Comte, il ne faut pas l'imaginer comme un gourou qui s'en met plein les poches, hein, pour simplifier, on parlait en termes... voilà. Non, il avait besoin de vivre, et il avait aussi besoin de payer une pension alimentaire à sa femme, parce qu'Auguste Comte, sa femme, elle est partie plusieurs fois au cours dans le ménage, parce qu'il était assez aussi insupportable, enfin, il y avait ce problème d'argent, il y avait toutes sortes de problèmes. Et il lui a dit, la troisième fois d'ailleurs qu'elle est partie, il lui a dit, je crois que c'est en 1838 la troisième fois, il lui a dit, la quatrième fois, si vous partez, vous ne reviendrez jamais. Parce qu'elle aurait voulu revenir, elle. Parce que cette femme, elle a aimé Auguste Comte. Et bon, non, la quatrième fois, elle est partie en juillet de 1841. D'ailleurs, il lui a demandé quand même d'attendre un petit peu, elle voulait partir plus tôt, et il n'avait pas fini son sixième volume de son cours de philosophie positive. Et il lui dit, tant que j'ai pas fini mon volume, j'ai besoin de toi, ça va me perturber trop si tu pars. Et elle accepte de rester quand même. Ils vont vivre donc un an ensemble, 10 rue Monsieur le Prince. Hein, ils y rentrent en 1841. Oui, alors c'est en 1842, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 41. C'est en 1842 qu'elle part. Après, elle part, et Auguste Comte va se retrouver seul. Et là, il va y avoir un grand amour qui va débuter la première fois où il voit Clotilde de Vaux, c'est en octobre 1844. Et il va rentrer en correspondance avec Clotilde de Vaux fin avril 1845. Et il va finir cette correspondance tout simplement par la mort de Clotilde de Vaux. Elle va mourir deux jours après son 31e anniversaire, donc le 5 avril 1846. 183 lettres échangées, c'est là. Chez Comte, ça devient, enfin, c'est ce qu'il appelle la correspondance sacrée. Alors, pour les positivistes religieux, c'est la base même de quelque chose hors du commun, on va dire. Parce que Auguste Comte a appelé l'année sans pareil. Il avait un sens poétique parfois. Toute sa vie, Auguste Comte a regretté de ne pas être un poète. Il l'a dit à la fin de sa vie. D'ailleurs, il admirait les poètes, il aimait Dante, etc. Il se prenait pour Dante, puisque, comme il aimait Clotilde de Vaux, il a dit « Moi, je suis comme Dante, qui aime Béatrice. Clotilde, c'est ma Béatrice. » De temps en temps, il se prenait aussi pour d'autres, pour Pétrarque, etc. Je me demande si c'est pas un peu pris pour Abélard aussi, puisqu'il a mis Héloïse dans la 14e chapelle, la religion d'humanité. Donc, un déchirement immense, parce que c'est un amour incomplètement partagé, on va dire. Clotilde de Vaux va beaucoup aimer Auguste Comte, comme un ami, elle lui dit clairement, comme un ami, considérez-moi comme une vieille amie. Mais Auguste Comte, c'est l'amour fou, hein, comme disait Breton, etc. C'est-à-dire que lui, il va énormément souffrir de ne pas pouvoir aller au bout de cet amour. Et puis, il va énormément souffrir que finalement, Clotilde de Vaux va mourir, finalement, parce qu'il ne la voit pas si malade que ça au départ, et puis il est bien obligé de voir qu'elle est malade, elle a la tuberculose, elle ne le sait pas, personne ne le sait d'ailleurs, sa famille, même Auguste Comte, il la soigne mal, il fait venir ses médecins, mais il n'y comprend rien, il fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire d'ailleurs, il lui dit de ne pas manger, il la fait maigrir, alors qu'on meurt dans cette maladie de consomption, donc il faudrait au contraire la fortifier, etc. La mort de Clotilde de Vaux, c'est un immense déchirement. Il y a aussi face aux disciples, qui vont déserter ou trahir pour lui, parce que toute désertion est une trahison. Stuart Mill, qui va partir, etc. Littré, un des derniers, mais il y en a eu d'autres, hein. Célestin de Blinière, qui était un jeune positiviste dans lequel il a mis énormément d'espoir. Il disait peut-être même c'est lui qui va être formé au sacerdoce, peut-être pour me remplacer. Pierre Lafitte, qui lui a en fait succédé mais comme directeur de positivisme, il a dit « Oui, mais lui, Lafitte... » Parce qu'Auguste Comte était très direct, il disait carrément les choses comme il les pensait. Lafitte, il dit « Non, il n'est pas apte à me succéder comme pontife. » Voilà. Il a cherché, sans chercher complètement, un successeur. Parce que, vous savez, le problème quand on crée une religion, quand on est pontife, il faut se dire « Qu'est-ce qui se passera après moi ?» quoi. Bon. Il a tout organisé, il a quand même organisé un testament, il a organisé une exécution testamentaire avec 13 exécuteurs, tout ça, il a quand même bien pensé. Alors bon, il y a un déchirement que j'oublie. C'est ce que dit François Bocheten dans son bouquin. Auguste Comte, toute sa vie, lutta contre la folie. Au final. Là, on a compris beaucoup de choses. Alors, on sait tout parce qu'il a tout raconté, Auguste Comte. Hein. Auguste Comte, en 1826, a une immense crise existentielle. Il vient d'avoir de l'espoir, il vient d'organiser un cours. Enfin, ça ne s'est pas passé comme il a pensé. Hein. Il a pensé qu'il y aurait plein de gens qui viendraient. Il a pensé que ces gens seraient des souscripteurs, qu'il aurait enfin de l'argent. Il a toujours pensé avoir de l'argent et puis finalement, peu de gens sont venus. Et puis, il a renoncé finalement à les faire payer. Il a fait des cours chez lui. Par contre, des gens assez prestigieux sont venus, qui l'ont soutenu quand même. Hein. Il a fait 3 cours, là. Ça, c'était début 1826. Et le 4e cours, les gens sont venus au cours et il n'était plus là. Parce qu'il était parti dans la nature. Un de ses amis, d'ailleurs, et sa femme s'est beaucoup occupée de lui, l'a récupéré, on l'a fait soigner à l'hôpital d'Ivry par le grand liéniste Esquirol. Il y est resté toute l'année 1826, jusqu'en décembre. Et il voulait absolument s'en aller. Alors Esquirol a dit, bon ben voilà, non guéri. Fallait s'en occuper. Toute l'année 1827, il a été en dépression. Alors là, il l'a révélé une seule fois, d'ailleurs, à Clotilde de Vaux, dans une lettre, vous voyez, comme c'est précieux, tout ça. Et il dit, un jour, un gardien de la paix m'a repêché de la Seine. Et il a fallu attendre aussi toute l'année, je crois, 1828, c'est la fin de l'année 1828, il commence à remonter sa dépression, et il va reprendre ses cours en 1829. Voilà. Donc, ça, c'est une crise très, très importante, 1826. Il y aura une crise aussi assez importante en 1838, mais là, il va mieux la gérer, il va plutôt la gérer, il dit, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire du vin, enfin, c'est pas qu'il fumait beaucoup, mais il va développer une sorte de régime, il va développer un drôle de régime aussi intellectuel, il va dire, je vais arrêter de lire les ouvrages des contemporains, des journaux, enfin, sauf si c'est moi qui écris dedans, parce qu'il a encore écrit dans quelques journaux de temps, et je pense qu'il se lisait quand même, il était content de se relire. Mais il va décider que finalement, il fallait qu'il réorganise sa vie sans un sens assez ascétique, assez restrictive et tout et tout. Alors oui, vous imaginez, par rapport à sa femme, c'était pas forcément amusant, hein. C'est un homme aussi très maniaque. C'est pour ça qu'à la maison Auguste Comte, on a gardé ses repas, il pesait la quantité de viande qu'il lui fallait dans une petite balance, il fallait exactement les choses qui étaient prévues, il faut dire qu'il avait l'estomac fragile, mais enfin, vous voyez, il était quand même plus que méticuleux. Et puis, à l'époque du grand amour de Clotilde de Vaux, ben, un grand amour, c'est dangereux si, sur le plan psychique. Il va aussi, là on a des trucs, il l'indique, hein, dans les archives, il fait des immenses insomnies. D'ailleurs, il fait du chantage à Clotilde de Vaux. Il lui dit, au fond, ma santé mentale en dépend. Mon œuvre, mais aussi ma santé mentale. Et à un certain moment, d'ailleurs, pour la petite histoire, puisque Clotilde de Vaux lui résiste, vous avez bien compris, eh ben, il y a même un moment où elle lui dit, écoutez, si c'est pour votre hygiène de vie, ben voilà, je ferai ce que vous voudrez. Mais bon, c'est lui qui va se rétracter. Il avait une image extraordinaire de Clotilde de Vaux. Il l'a gardée, il l'a même magnifiée d'une certaine façon. Voilà. Bon. Alors, par rapport à sa femme, Auguste Comte, il me rappelle Chateaubriand. Alors, vous savez, Chateaubriand, c'est un petit homme pas très bien, il a des jambes, il est courte, il n'est pas si bien foutu que ça, comme on dit, Chateaubriand. Et Auguste Comte, c'est pareil, c'est quelqu'un qui se dit, d'ailleurs, moi, il le dit, à un moment, j'aurais jamais cru que je puisse plaire à une femme. Seulement, ce sont des passionnés du beau sexe. Bon, moins Auguste Comte peut-être que Chateaubriand, mais Chateaubriand, il a eu des succès. Auguste Comte, lui, il a peiné en amour, sauf à un certain moment, mais quand il a pas peiné, il a un peu dérapé. Bon. Auguste Comte, par exemple, quand il était jeune, polytechnicien, alors ça, c'est classique à l'époque. Hein. Ils allaient tout simplement, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais quand ils avaient un peu d'argent, ils allaient voir les dames. On allait où pour les voir les pas chers? À la galerie de bois. Les galeries de bois au Palais Royal. Parce qu'il y avait des galeries, Montpensier, les galeries de pierre, ils étaient plus chers, mais là, les galeries de bois. Alors, ce qu'il va révéler, mais ça, c'est une forme de vengeance, d'ailleurs, qu'Auguste Comte fait dans son testament, parce qu'il est rentré en conflit majeur avec sa femme à cette époque. Il va faire une addition secrète. C'est un peu spécial chez lui, parfois. Alors, l'addition secrète, il dit, Auguste Comte. Eh bien, vous allez tout savoir. Cette femme-là, d'abord, je l'ai connue, j'étais client, tout simplement. Je l'ai connue au Palais Royal parce qu'elle fréquentait la galerie de bois. Il faut voir une chose, c'est une grisette. C'est pas ce qu'on appelle une lorette. C'est une jeune femme, père et mère, qui étaient des espèces d'artistes, comédiens, ambulants, qui s'étaient séparés. Il n'y avait pas de sous, il n'y avait rien. Elle a été élevée par une grand-mère, avec peu d'argent. Bon, effectivement, il y a des chances que je compte, il n'a pas tout à fait dit un mensonge, là, c'est-à-dire qu'il a plutôt dit la vérité. Mais ce qui va se passer après, c'est qu'il va la rencontrer un peu plus tard dans un cabinet de lecture. Ça, c'est intéressant parce qu'on passe aux bibliothèques, n'oublions pas, les cabinets de lecture à l'époque étaient très importants. Probablement qu'elle avait fait un petit peu d'argent de côté. Elle avait aussi un ami. Alors, c'est très compliqué la relation avec cet ami, Cerclet, un homme très intéressant, qu'Auguste Comte va toujours jalouser parce que Auguste Comte, il est très très jaloux. Dès qu'il s'agit d'abord de sa femme, il était jaloux. Après, il était jaloux de Clotilde Vaux qui avait été très soutenue par Maras. Armand Maras, il était très jaloux, etc. Cerclet, évidemment, il était marié, il avait probablement une relation d'amant et maîtresse, plus ou moins épisodique avec Caroline Massin, mais après, je pense qu'ils étaient restés très amis, ils sont restés amis, et il a secondé Auguste Comte, Cerclet. Et probablement qu'il a aussi secondé Caroline, donc il a peut-être aidé un peu à s'installer, Caroline, pour avoir un cabinet de lecture. En tout cas, quelques années après, Auguste Comte rencontre Caroline, c'est ce qu'il dit, hein, dans un cabinet de lecture. Et ils se mettent un petit peu progressivement en ménage. Caroline va lui demander le mariage. Au début, il veut pas trop. D'abord, il se dit, mes parents voudront pas. Il a raison parce que les parents n'en veulent pas. Ils veulent absolument pas cette femme. Il a pas d'argent. Cette femme, elle est pas intéressante. Pour eux, c'est une femme, etc., qui rejette. À cette époque, il faut demander l'autorisation aux parents. Eh ben, il impose à ses parents ce mariage civil. Petite histoire, la maman va un petit peu se venger, si on peut dire, entre guillemets. C'est quand il sera dérangé mental pendant 1826, elle va prétendre que c'est à cause de ce mariage civil que les choses se passent mal dans le couple, et elle va obtenir de Comte un mariage religieux. Ce qui d'ailleurs, lui, à cette époque, il signe son mariage religieux, Brutus César, ce qui montre qu'il n'était pas tout à fait... Il faut comprendre les choses. Auguste Comte dit « J'ai perdu la foi à 14 ans ». Et c'est vrai qu'il a toujours resté sur cette position de ne plus avoir vraiment la foi, mais d'être marqué tout de même, très très marqué par plus que le christianisme, puisqu'il n'aimera pas du tout les protestants, composant quand même essentiel du christianisme, n'oublions pas. Toute sa vie, il va rejeter les protestants, il va assimiler ça au parti anarchique, pour lui, il y a le parti métaphysique, etc. Et par contre, il est catholique. Il va être, je ne sais plus quel auteur a dit, il va être une sorte de catholique qui a cessé d'être chrétien, parce qu'il ne va plus croire en Jésus. Il y a un texte où il dit, oui, on a bien fait de faire de Jésus un sans-culotte. Mais c'est l'époque où Auguste Comte, quand il est jeune, il est républicain. Là. Après, il doit devenir beaucoup plus conservateur. Et quand il est plus conservateur, il y a un moment, il dit quasiment Jésus, c'est un imposteur. Saint Paul, c'est quelqu'un de bien. Il le met dans le calendrier positiviste. Il ne met pas Jésus. Non, Jésus, c'est pas sérieux, Jésus. Jésus, il prône quoi pour lui? Il se trompe pas, d'ailleurs. Il prône l'égalité. Or, Auguste Comte, là, je vais sur la fin de sa vie, au cœur de sa doctrine, il faut comprendre, du valier presque républicaine, et qui est problématique, bien sûr. Il le dit à un moment. C'est clair, il est très clair, Auguste Comte. Il dit, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, vous m'enlevez égalité, ça me va très bien. Non, l'égalité, c'est une imposture. Je ne crois pas à l'égalité. Je ne suis pas pour l'égalité. Je suis pour la liberté, je suis pour la fraternité, etc. C'est Auguste Comte. Voilà. Ah oui, l'unité. Oui, c'est important, l'unité. Lui, il veut, j'ai dit tout à l'heure, réorganiser, systématiser, il utilise toujours ce terme, synthèse, terme synthèse qu'il utilise beaucoup, harmonie, beaucoup. Alors, ça, c'est l'époque aussi. Hein. Et alors, il veut régler, rallier, lier aussi. Pour lui, la religion, c'est lié. C'est relié. Pour lui, le culte, c'est cultiver ensemble l'altruisme. Fin fond de sa doctrine, c'est ça. Il invente beaucoup moins que ce qu'on croit. Hein. Il cite par exemple Vauvenargues. Lui dit, le noble Vauvenargues, il a bien compris ça, mais il a peut-être pas compris jusqu'au bout l'importance de ce qu'il disait, que toute grande pensée vient du cœur. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, Auguste Comte? Il travaille cette idée jusqu'au bout. C'est là qu'il introduit le vivre pour autrui. qui n'invente pas. Vivre pour autrui, c'est tout simplement une phrase qu'on trouve texto dans la lettre qu'écrit, avant de mourir, Condorcet à sa fille. Il dit « Ma fille, je te recommande de vivre pour autrui ». Et lui, il aimait Condorcet, il avait étudié Condorcet, donc il a retrouvé le vivre pour autrui. Mais il en fait quelque chose. Probablement, c'est lui d'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait fait le néologisme altruisme. Parce que certains disent qu'il avait un professeur de français qui avait été introduit à l'école polytechnique, qui était dans ce sens et qui aura probablement utilisé peut-être le mot altruisme. C'est comme le mot positif, positivisme. Si vous voulez, Auguste Comte, quand il avait une idée, il en faisait quelque chose. C'est pour ça qu'il est quand même un penseur. Pousser à l'extrême une idée et dépasser là, comme disait Alain. Penser, c'est faire quelque chose d'une idée, c'est la faire sienne, la faire fructifier, etc. Et peut-être aussi, alors la dépasser. Mais... Auguste Comte, c'est un passionné de l'unité. C'est quelqu'un qui veut montrer jusqu'à la fin, à lui-même d'abord et aux autres, que dans sa vie, les choses s'organisent logiquement par rapport à une œuvre qu'il a à faire, que cette œuvre, elle est parfaitement cohérente, que ce qu'il trouve même à la fin, c'est des solutions des problèmes qu'il a posés au départ. À la fois, il est parfaitement sincère, ça, faut le reconnaître, hein, c'est parfaitement sincère dans sa démarche. Est-ce qu'il est parfaitement convaincant? C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y a chez lui cette passion de l'unité qui, d'une certaine façon, vient équilibrer les déchirements, toutes les crises, etc., etc. Ah oui, juste une petite histoire quand même. Il est quand même tellement brillant, vous voyez, c'est qu'il va rentrer en 1812-1813 en mathématiques spéciales. Et en 1813, il a 15 ans, trop jeune pour passer le concours d'école polytechnique. Alors, il a un professeur remarquable, Daniel Encontre. Et c'est Daniel Encontre qui a fait beaucoup d'Auguste Comte, en fait. C'est un homme qui est un grand mathématicien, un grand pédagogue, partisan de l'enseignement mutuel, qui d'ailleurs voit qu'Auguste Comte, il le fait redoubler, mais il lui dit... La deuxième année, tu seras meilleur. Et puis, à un moment, par exemple, il va se faire remplacer, tu me remplaceras. Et Auguste Comte va remplacer son prof à l'école polytechnique. C'est osé. Auguste Comte est très, très fier de remplacer Daniel Encontre. Alors, il dit au début, ses exposés, c'est comme ça, c'est décrit. Il est ennuyeux, parce qu'il expose ce qu'il a écrit, ce qu'il a prévu, il embête tout le monde, et des phrases pas possibles. Quand il se lance, c'est fini. Là, il rayonne, il a des idées, il a de la spontanéité, il a de l'ironie, etc., etc. C'est comme ça qu'il faut imaginer ce personnage. Alors. Daniel Encontre le fait redoubler, donc il va rentrer l'année d'après. Il faut savoir que Daniel Encontre lui donne le goût encyclopédique. Toute sa vie, Auguste Comte va développer l'idée de l'encyclopédie, car Daniel Encontre s'intéresse à tout, à la physique, à la chimie, à la biologie. Il s'intéresse aussi, il faut savoir, à la religion. Alors la seule chose qu'il ne donnera pas à Daniel Encontre, mais Daniel Encontre va être un esprit très républicain et très laïque, car il lui fait pas trop savoir, probablement, en tout cas il n'embête pas avec ça, qu'il est très religieux. Daniel Encontre, c'est un protestant, du désert, on dit, qui va devenir lui-même pasteur. Il va finalement abandonner l'enseignement scientifique à l'école polytechnique pour se consacrer à un ministère de pasteur. Auguste Comte, c'est difficile de trouver qu'il n'ait jamais été très tendre avec les protestants, alors qu'il a eu au moins deux grands protestants, on va dire, dans sa vie, qui l'ont beaucoup aidé. Daniel Encontre, évidemment, et puis un autre plus tard, qui était directeur d'école polytechnique, le général Campredon, qui est originaire de Montpellier, qui va beaucoup l'aider dans une période difficile. Alors, École polytechnique. Ça, c'est important de dire. Il ne va pas la faire complètement, son école polytechnique. Première année, il l'a fait. Elle rentre en deuxième division la première année. Hein, c'est comme ça. Caporal. Bah oui, caporal, pourquoi? Parce qu'il était rentré dans les premiers à l'école. Puis ensuite, 1815-1816, c'est la première division. Ben, la première division, ça s'arrête en avril. L'école polytechnique est licenciée. Licenciée pour des histoires internes, soi-disant, d'indiscipline. En fait, c'était des règlements de compte. Parce qu'on était sous la Restauration, il y avait un trop grand esprit bonaparto-républicain, que d'ailleurs Auguste Comte il avait, il faisait partie des meneurs, et on a dit, cette école polytechnique, on n'en veut plus, on les renvoie dans leur foyer. Auguste Comte, d'ailleurs, il a milité à ce moment-là, à Montpellier, il a essayé de dire, on va faire une sorte d'association de défense de tous ceux qui ont été spoliés par le renvoi de l'école polytechnique. Il était considéré comme un meneur, ce qui montre que le général Campredon, quand même, était quelqu'un de très ouvert, parce que bien qu'il savait tout ça, il avait des rapports contre Comte, il a quand même toujours soutenu Comte après. C'est vrai que l'école polytechnique, au bout de 2 ans, on faisait ce qu'on appelait des écoles d'application. Et c'était suivant les niveaux qu'on sortait. Puis on sortait des niveaux élevés, puis on faisait des écoles prestigieuses, c'est-à-dire les mines et les ponts et chaussées. Sans ça, on faisait l'école d'application de Metz pour être militaire, etc., etc. Des écoles d'application. De l'artillerie, surtout à Metz. Les autorités ont dit, bon, on va quand même pas les arrouver dans les foyers. Ben, ils ont qu'à réintégrer. Enfin, il fallait quand même faire un petit signer à des papiers. Et Auguste Comte, il n'a pas voulu. De toute façon, non seulement il ne voulait pas trop signer ses papiers un peu d'allégeance, on va dire, à la Restauration. Je pense qu'il avait une intuition aussi quelque part, que de toute façon il ne voulait pas être ingénieur, il ne voulait pas aller dans les écoles militaires, de toute façon ce n'était pas pour lui, parce qu'Auguste Comte, il faut savoir une chose qui est très curieuse chez lui. Une des choses qu'il déteste le plus, c'est l'anarchie. Ce qu'il assimile à l'anarchie, c'est très simple, chez lui c'est le communisme, c'est le monde rouge. Mais à l'époque on disait indifféremment communiste ou socialiste, d'ailleurs, même Georges Sand utilisait comme ça l'équivalent. Hein. Les rouges, les socialistes qui mènent les prolétaires à l'anarchie. Voilà le point de vue d'Auguste Comte, hein, sous l'influence des métaphysiciens du XVIIIe siècle. On dit beaucoup de positivistes ont été francs-maçons. On disait, est-ce que Auguste Comte... Non, Auguste Comte et l'esprit franc-maçonnique, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pour toutes sortes de raisons. Je sais pas la vérité à plusieurs, lui. Il cherchait la vérité tout seul. Il avait un esprit assez dogmatique, faut quand même le dire. Eh bien, Auguste Comte ne va pas réintégrer l'école polytechnique, en fait. Il va tout simplement commencer à faire, dès 1817, des cours privés, puisqu'il aime enseigner, mais on ne gagne pas grand-chose en faisant des cours privés. Il dit, fin de compte, il faut faire toutes sortes de démarches pour obtenir des cours privés, ça m'embête. En fait, ça va s'arranger un petit peu pour lui. Pourquoi ? Il est répétiteur, après. Quand il est répétiteur, il y a une institution qui s'appelle l'institution privée La Ville, qui prend tous les enfants de bonne famille pour les faire entrer à l'école polytechnique. répétiteur, c'est pas mal. Et puis c'est encore mieux, après, il est examinateur. D'ailleurs, ça va lui être pas vraiment reproché qu'à lui. D'ailleurs, on va décider après que les examinateurs le seront plus définitivement. Et puis, il faudra peut-être pas qu'ils soient examinateurs là où ils sont profs. Pourquoi ? Parce que l'examinateur, c'est celui qui pose des questions d'entrée. Si l'examinateur qui pose des questions d'entrée, il est prof des cours privés qui permettent de réussir l'examen d'entrée, il y a un petit conflit d'intérêts, comme on dit. Quand il va perdre son poste d'examinateur, il dit, mon poste à l'institution La Ville, il n'y en a pas pour longtemps. Parce que c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, il le dit, l'institution La Ville, il dit d'ailleurs tout ça, c'est une bande de calotins, je sais pas quoi, il dit là-bas un peu, il m'utilise uniquement parce que je suis bien placé à l'école polytechnique, en fait, et puis je m'y connais en mathématiques. Bon, il ne peut pas dire qu'il est extrêmement enchanté d'enseigner à l'institution. Il écrit à son ami Valla. Auguste Comte, quand il écrit à cette époque, après, quand il écrit Côté de Vaux, il est lourd, hein, des fois en fatigue. Bon, en plus, bon, il est amoureux, ça rend peut-être lourd, hein, c'est possible. Mais alors là, avec son ami, il est impeccable. Il est direct, il est bon. Alors, mon cher ami, j'ai beaucoup de choses à te dire en réponse à ta dernière lettre, qui m'a fait beaucoup plaisir et en même temps, un coup de peine, etc. Bon, il réconcilie lui à l'école. À 5h du matin, on bat la diane, il faudrait se lever, mais on n'en fait rien. Et malgré que les capitaines viennent crier dans les chambres, on ne se relève qu'à 5h15, lorsqu'on bat le roulement pour descendre à l'appel dans les brigades, salle d'études. On travaille ainsi jusqu'à 7h30, où l'on va déjeuner jusqu'à 8h. Le déjeuner consiste en un bon morceau de pain, et il y a de plus un homme qui vend du lait chaud ou du beurre. Avec quelque argent, on peut bien déjeuner, car d'ailleurs le pain est très beau et à discrétion. À 8h, on va à l'amphithéâtre de géométrie descriptive, ou dans les salles jusqu'à 9h. Quand il y a l'amphithéâtre, on remonte alors dans les salles jusqu'à 2h. Quelquefois, dans cet intervalle, il y a différents cours, etc. Bon, vous voyez, il raconte tout ça. Bon, c'est amusant une fois qu'on est pris dedans. Comme Auguste Comte, il n'est quand même pas très spontané, d'ailleurs. C'est un des problèmes qu'il a avec Clotilde de Vaux, c'est un manque de spontanéité. D'ailleurs, un peu des deux côtés, parce qu'elle lui dit, moi, avec vous, j'arrive pas à être spontané, parce que vous me bloquez, elle lui dit. Alors, là, il fait un petit voyage à Lyon. C'est en 1816, il est à l'école polytechnique, mais un petit voyage à Lyon, c'est un transit, pour aller à Montpellier, voir ses parents. Il dit, il y a de fort belles personnes, et je crois qu'en proportion le nombre, on est beaucoup plus considérable ici qu'à Paris, et même à Montpellier. L'excellent ton des Lyonnaises me plaît surtout extrêmement. Dimanche dernier, j'ai été invité à une partie de campagne qui m'a beaucoup amusé. Il y avait des demoiselles très jolies et surtout très aimables, on pourrait même dire très commodes. Toutes se sont faites un plaisir à me faire, à moi, étranger, les honneurs de la ville. J'ai passé une journée délicieuse. Je t'avoue que je ne me consolerais pas de quitter Lyon si ce n'était pour aller à Paris, où les femmes sont en général moins jolies mais encore plus aimables, et où surtout la vie offre autant d'agréments qu'on ne rend compte pas ici. Vous voyez que c'était un jeune homme plein de vie, on va dire, qui décrit toujours... Alors ça, c'est plus son côté philosophique, ça. Auguste Comte aussi, c'est un homme qui était toujours attiré par les grands hommes. Benjamin Franklin, maman, c'est son grand homme. Ce n'est pas simplement le grand homme d'Auguste Comte à cette époque, c'est quand même un homme très marquant. Il y a une incidence parce qu'en fin de compte, le général Compridon à un certain moment se dit « Mais comment je vais recaser Comte ?» Il y a un rêve de faire une école polytechnique en Amérique, aux États-Unis. Et il dit « Pourquoi pas envoyer Comte ?» Et Comte rêve de partir aux États-Unis parce qu'il rêve d'aller dans le pays de Franklin. Ça se fera jamais, hein, parce que les Américains qui veulent pas en fait. Les militaires américains. Il dit à son ami Valla « Si tu as lu avec quelque attention la vie des grands hommes, tu dois te souvenir que tous ne furent pas heureux dès leur jeunesse et qu'ils n'y parvinrent qu'en s'armant de constance. » Si tu t'en souviens, Franklin a été un garçon imprimeur jusqu'à l'âge de 24 ou 25 ans. Et il nous apprend lui-même que pendant ce temps, il déjeunait avec un morceau de pain pour tout potage. Et il est mort dans l'aisance, entouré des bénédictions de ses concitoyens et de l'estime de tous les hommes, après avoir rendu la liberté à son pays. C'est déjà son rêve, Auguste Comte, quelque part. Hein. Cet exemple est bien fait pour encourager. Quant à moi, mon très cher ami, je suis devenu tout à fait philosophe. Tu sais que je l'étais déjà par théorie. Et à présent, je commence à l'être par pratique. C'est intéressant parce que Comte toute sa vie, c'est ça aussi. Alors là, peut-être qu'il y a un point commun avec Karl Marx. Vous savez, Karl Marx qui dit la philosophie, ça sert à rien si c'est pas mis en action. Chez Auguste Comte aussi, quelque part, c'est un homme qui rêve d'agir. Tu m'accuseras peut-être de présomption, mais malgré cela, comme je ne veux rien avoir de caché pour toi, je te confierai que j'ai pris pour modèle de conduite l'homme illustre, l'homme divin dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Benjamin Franklin. Je cherche à imiter le Socrate moderne, non par ses talents, mais par ses mœurs. Tu sais qu'à 25 ans, il forma le projet de devenir parfaitement sage et qu'il l'exécuta. Moi, j'ai osé entreprendre la même chose et je n'ai pas 20 ans. Cocorico, je ferais mieux que Benjamin Franklin. Je suis plus jeune. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand même après, il dit « Sa vie est dans mon modeste cabinet. Et chaque jour, j'en lis quelque peu pour m'encourager. Quoique mon idée soit peut-être fort chimérique, alors ça c'est très important quand on réfléchit bien comment après a raisonné Auguste Comte. Déjà, il raisonnait comme ça. Quoique mon idée soit peut-être fort chimérique, du moins, j'ai la satisfaction de voir qu'elle contribue à mon bonheur, hein, c'est ce qu'on appelle une pragmatique en fait, car elle m'a engagé à détruire certaines inclinations qui auraient pu me devenir funestes. Par exemple, tu n'ignores pas combien la passion des femmes est forte en moi, et combien elle m'a fait entreprendre de folie. Eh bien, tu seras peut-être étonné quand je te dirai que depuis 3 mois, je n'ai rien à me reprocher à ce sujet. » Il n'est pas allé à la galerie de bois, quoi. Alors, « rien n'est plus vrai, cependant, je serais parfaitement libre de le faire si je le voulais. D'abord, j'ai été obligé d'imposer silence à mes sens, qui criaient quelquefois contre ma raison. Mais après avoir pendant quelque temps surmonté, je me suis aperçu qu'ils disparaissaient insensiblement. Je pourrais te citer encore d'autres défauts que je suis parvenu à vaincre, et ce succès m'engage de plus en plus à persister dans ma résolution, d'autant plus que je me sens beaucoup plus heureux. » Mon idée, dit Auguste Comte, elle est peut-être illusoire. Il y a toujours chez Auguste Comte une possibilité sur l'illusion. L'illusion de ce qu'on pense. Et la dialectique, c'est de dire, c'est pas grave, parce que ça m'est profitable. Comme vous savez, on va lui reprocher son positivisme, de le faire évoluer sur ce qu'on appelle la prépondérance du cœur, sur l'idée que finalement, c'est à partir des sentiments. Ce qu'on trouve déjà chez Spinoza, parce que Spinoza, il a dit, pour pouvoir vous mobiliser pour l'action, un savoir est insuffisant. Il faut que le savoir passe par l'affect. Seul l'affect, c'est-à-dire les sentiments, permettront aux hommes, individuellement ou collectivement, de se mobiliser pour l'action. C'est ce que redécouvre Auguste Comte. Il ne faut jamais oublier que sa religion d'humanité, il y a un dogme, il y a un culte, etc., et un régime, comme il dit, bon, eh bien, cette religion d'humanité, elle a un but fondamental chez Comte. Cultiver les sentiments altruistes. C'est comme l'enseignement, l'éducation. Si vous ne cultivez pas, il n'y aura pas de sentiments altruistes. S'il n'y a pas de sentiments altruistes, il n'y aura pas de possibilité d'une action régénératrice, puis c'est comme ça qu'il voyait, de la société. La politique n'est pas possible. Parce qu'il aboutit à l'idée que la politique ne peut pas se faire par une science politique. Au début, des gens comme Littré vont croire encore à une possibilité d'un positivisme scientifique, scientiste, on va dire. C'est-à-dire que peut-être la science politique peut suffire. La morale peut être construite par une science. Chez Auguste Comte, non. La morale, elle est construite par quelque chose qu'il a d'ailleurs cherché toute sa vie à construire, qu'il ne va pas y parvenir complètement, puisque son dernier traité de morale, il n'en écrit qu'un volume, qui est la synthèse subjective, et qui est un peu bizarre quelque part. Tout à l'heure, j'ai parlé de déchirement, mais j'ai aussi dû parler aussi de non-clôture, d'inachèvement. D'ailleurs, il ne pensait pas mourir si tôt. Il avait un fond optimiste, il pensait vivre et avoir le temps d'avancer encore dans son œuvre. Alors Saint-Simon, il aime beaucoup le Saint-Simon, il aime beaucoup le Père Simon, il va se fâcher beaucoup, il va se trouver en rivalité aussi, enfin c'est assez compliqué sur la relation avec Saint-Simon. Alors, bon, ses amours, à 20 ans lui, jeune polytechnicien encore un peu fringant, qui n'a pas de situation et tout, il a une maîtresse, Pauline, belle italienne, il explique ça, voilà, 25 ans, grâce à elle il apprend l'italien, il va toujours aimer l'italien, la langue de l'amour, mais il lui fait tranquillement un gosse. Et puis il écrit tranquillement à Valla, mais c'est pas de problème, elle est mariée. De toute façon, elle a déjà un enfant, puis c'est le papa qui s'en occupera. Alors Auguste Comte l'a révélé un jour à Clotilde de Vos, je crois qu'il l'a vieilli en fait. Une femme, il a dit, je suis beaucoup plus âgé, j'étais entraîné, 20, 25 ans, il n'y a pas de si grande différence d'âge que ça, il n'a pas complètement assumé. Il a une fille donc, cette fille elle est morte à l'âge de 9 ans, il ne l'a pas connue, elle a été élevée par sa mère, son mari quoi. Autrement, il n'a pas eu d'enfant évidemment, Auguste Comte, hein. Il n'a pas eu d'enfant, ni Clotilde de Vaux d'ailleurs. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est l'idée, je ne l'ai peut-être pas dit complètement, il n'aime pas l'anarchie, mais il est assez libertaire, hein. Enfin, libertaire sans l'être intellectuellement, mais dans son comportement, d'ailleurs il faut savoir qu'à un certain moment, par rapport à Clotilde de Vaux. Comme il a fait des théories assez précises sur le mariage, après il est allé vers même ce qu'il appelait le veuvage éternel, enfin plus tard, ça s'appelle Clotilde, mais déjà il avait mis en place des idées comme ça, très, comment dirais-je, limitatives sur les possibilités de déroger au mariage. Mais à certains moments, il dit à Clotilde, ben non, mais nous on pourrait, etc., etc. Il se permet des choses qu'il n'autorise pas aux autres. C'est quand même problématique. Alors son œuvre, j'en ai pas vraiment parlé, c'est essentiel, c'est du temps de Saint-Simon. C'est paru donc chez Saint-Simon 1822, page de garde du contrat social. C'est un texte d'Auguste Comte, prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société, par Auguste Comte, première fois que son nom apparaît. Au début, son nom n'est pas apparu. C'est simplement parce qu'il ne voulait pas que les parents sachent qu'il travaille avec Saint-Simon, surtout le père. Parce que travailler avec Saint-Simon, c'était mal vu. Hein, des... Après, là, il assume qu'il travaille avec Saint-Simon. Saint-Simon ne lui fait que 100 exemplaires. Il va pouvoir obtenir quand même une réédition de ça à 1000 exemplaires en 1824. Il va changer le titre. Quelques mots aussi qui changent en plus. Il l'appellera plus sa prospectus, il l'appellera système de politique positive. Et il dira, ça, c'est mon opuscule fondamental. En 1822, j'ai 24 ans, j'ai découvert la loi des trois états, j'ai déjà hiérarchisé les sciences, j'ai fait l'opuscule fondamental. Je crois que c'est quand même là qu'il a introduit quelque chose qui est extraordinaire. Alors là, on va lui donner un titus, je pense, un intellectuel fort. Tout est relatif, voilà la seule chose absolue. Cette formule. Alors, dans le positivisme, vous voyez, tout ce que je vais introduire, il faut aussi le relativiser. Alors, son opuscule fondamental, il en sera très très fier. Alors, il va se rendre compte qu'il ne peut pas écrire la deuxième partie. C'est trop compliqué, il n'y arrive pas, parce qu'il veut penser, lui, la politique. Hein, il veut système de politique positive. Il veut penser, c'est-à-dire le changement, la régénération de la société. Il dit, je vais passer par une étape intermédiaire, qui va publier les cours qu'il fait, parce que j'ai oublié de dire qu'on avait vu avec Carole qu'il a fait des cours d'astronomie, mais il s'est lancé dans des cours de philosophie positive. Il dit, je vais les publier. Il les écrit pendant 12 ans, 6 volumes de 1830 à 1842. C'est des volumes de 800 pages, hein. Un immense travail. Catastrophe aussi, 1862, il fait la préface, il attaque Arago, il attaque la pédantocratie, il fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit plus jamais admis à l'école polytechnique, qu'on va le virer. C'est ce qui va se passer. Ce cours, ça sera son succès. Littré découvre ce cours, dit « Oh là là, philosophie positive, c'est à la mode là, c'est un homme qui va nous apprendre comment penser en fait, comment s'orienter dans la pensée. » Eh bien, Auguste Comte ne va pas hésiter finalement de considérer à un certain moment que c'est insuffisant. D'ailleurs, quand il fait la bibliothèque positive, pour dire à tel point, il va même recommander d'en lire une version faite par une disciple anglaise qui s'appelle Miss Martineau, qui était une version abrégée, un résumé dit « ça suffit ». Parce qu'il dit « ça c'était préparatoire finalement ». J'étais positiviste, mais je n'ai pas découvert encore la prépondérance du cœur. J'avais commencé, mais je n'ai pas découvert. C'est Clotilde de Vaux qui me fait découvrir. Je remène toujours à Clotilde de Vaux, mais bon, c'est la vérité, c'est comme ça. La prépondérance du cœur. Et je vais écrire ce que j'ai toujours voulu écrire, le système de politique positive. Je l'avais annoncé par mon opuscule fondamental. Je ne l'ai pas fait. Ben maintenant, je vais le faire. 4 ans pour le faire. Un volume par an, effectivement. De 1851, je crois, à 1854. Donc ça, c'est son fameux système de politique positive, mais il faudrait peut-être que je m'arrête là bientôt. Ben, je vous ai dit qu'il a fait un catéchisme positiviste, vous savez peut-être déjà, en 1852, bon, voilà, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'Auguste Comte, il y a quand même côté désuet, enfin, en tout cas, c'est un point de vue, hein. Je donne le point de vue, hein. Et quelle est sa modernité? Je dirais personnellement qu'Auguste Comte, il est moderne, actuel, on va dire, par les questions qu'il pose, parce que il y a quand même aujourd'hui une crise de la démocratie. Donc il est moderne par les questions qu'il pose, mais pas par les réponses qu'il apporte. À mon avis, les réponses qu'il apporte sont insuffisantes, parce qu'elles sont quand même marquées d'un certain nombre d'a priori qu'il a eu toute sa vie, d'ailleurs, qu'il a conservé toute sa vie. Voilà. Par exemple, le prolétaire, il a aimé le prolétaire, parce que le prolétaire aussi était, selon lui, comme une armée qui allait se ranger derrière le pontife, hein, derrière le pouvoir, parce que séparation des pouvoirs, il a pensé séparation des pouvoirs, mais il y avait un pouvoir des philosophes, des savants, un pouvoir sacerdotal, un pouvoir religieux, spirituel, qui devait s'imposer au monde matériel, on va dire.
Merci beaucoup, Michel.
Bon, voilà. C'est un peu brouillon. Hein.
Ouais. Bon. Je vais lancer les questions. Donc, tu as beaucoup parlé de disciples.
Ouais.
Et le 19e siècle est très féroce envers les disciples. C'est vraiment un siècle de basculement par rapport aux disciples. Il n'y a qu'à voir en littérature tous les disciples de Balzac, de Zola, etc. Alors, qu'en est-il des disciples d'Auguste Comte? Est-ce qu'on se moque d'eux? Est-ce qu'ils sont ciblés, connus? Qu'en pense Auguste Comte lui-même? Est-ce qu'il protège ses disciples?
Ah, oui,
ou
oui,
est-ce
d'accord.
Au contraire, il essaie de leur donner une indépendance? Comment fait-il?
Non. Jamais il cherche à donner une indépendance. Lui, pour lui, le bon disciple, c'est le disciple qui s'aligne sur ses positions. Il a des disciples de la première magnitude, en particulier Littré, Libourov, il y a d'autres, etc., sont aussi francs-maçons, c'est-à-dire qu'ils ont aussi un autre système idéologique, spiritualiste, plus ou moins. Ils s'affranchissent assez facilement d'Auguste Comte du point de vue intellectuel. Au fond, ils raisonnent un petit peu comme ça. Auguste Comte, dans un premier temps, quand il a développé le positivisme avec son cours, eh ben, ça nous convient, ça correspond à notre attente, et on le suit. Maintenant qu'il va vers quelque chose de religieux, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce qu'il rétrograde, en fait, c'est lui-même qui rétrograde, il ne se rend pas compte, il devient théologiste ou quelque chose comme ça. Par contre, il a des disciples qui restent autour de lui. Alors après, bon, les derniers Blinière, lui, s'écarte à la dernière minute, ça l'embête beaucoup. Et les disciples qui restent autour de lui, ben, il essaie de les garder le plus possible, fidèles à son enseignement. Les disciples ont été très bien reçus, hein. Ils étaient très chaleureux, ils allaient chez lui. Par rapport à des jeunes, polytechniciens, ils sont beaucoup occupés, ils faisaient un peu directeur de conscience. Ils s'occupaient même à la limite de leurs problèmes de travail, mais à la limite de leurs amours. Et puis les rapports aux parents aussi, parce que très souvent les disciples disaient « Moi j'ai un problème, c'est que mon père et ma mère, ils sont croyants, ils sont catholiques. » Par exemple, il a fait des sacrements, dont un était le mariage. Et bien il y en a qui disaient « Je veux bien me marier positiviste, mais est-ce que je peux me marier de façon catholique ?» Après, Auguste Comte disait « Oui, bon, alors, marier catholique, faire plaisir aux parents, mais bon. » Ça s'est quand même organisé en église, hein, enfin église minuscule, alors... En fin de compte, les positivistes se sont déchirés rapidement. Hein. La fidélité à Auguste Comte était problématique, mais enfin, c'était prévisible. Hein.
Ouais, savoir comment il se situe par rapport à deux autres philosophes, Victor Cousin et Kant.
Alors, Kant, il s'en réfère. Kant, pour lui, c'est une sommité où il met en avant Kant. Victor Cousin, il déteste. C'est aussi en même temps un rival. C'est la Sorbonne, c'est rival. Puis alors, quand Auguste Comte, il veut pas, il veut pas. Hein. Ça représentait la métaphysique, c'est représentant aussi de la pédantocratie, pas du côté scientifique comme était Arago, mais du côté philosophique, parce que Auguste Comte, il a double casquette, hein. C'est aussi un des problèmes qu'il a eu. C'est que pour les mathématiciens, qu'est-ce que c'est que d'être philosophe? Ça sert à rien. Polytechnicien voulait pas d'un philosophe, il disait c'est un métaphysicien. Ce qui était la pire insulte pour Comte de dire qu'il est un métaphysicien. Et puis les philosophes installés, dont Victor Cousin était quand même une des sommités, ils disaient « Oh, bah lui, c'est un philosophe amateur », ce qu'il était quelque part, parce que c'est un autodidacte, Auguste Comte. Sa philosophie, il s'est inventée toute seule, il s'est fabriquée. Ce qui est intéressant chez Comte, il va développer toujours l'idée d'encyclopédie. Il faut pas faire d'un enseignement trop spécialisé, même à Polytechnique, il veut réformer Polytechnique. Il dit « Vous, pas que des maths, pas que du calcul ». Pour le sacerdoce, je crois que c'est Blinière d'ailleurs qui, à un moment, il dit « Vous commencez d'abord par me faire 7 années d'études. » Bon, 7, il aime bien le chiffre 7 d'ailleurs, il a plusieurs fois utilisé ce chiffre. « Vous ferez 7 années d'études encyclopédiques de toutes les sciences. » Puis après, on en reparlera pour faire le noviciat, etc. Hein, vous voyez, il fallait le plus possible brasser large toutes les sciences. Avec cette hiérarchie des sciences qu'il faut bien rappeler, hein, il met la première science, les mathématiques. De mathématiques, c'est la déduction, c'est l'esprit. Ensuite, il faut savoir que lui, il ne dit pas une seule science. À chaque science, il y a une spécificité, à la fois des problèmes et des solutions, on pourrait dire. Alors, la deuxième science qui va s'enclencher aussi grâce aux mathématiques, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est l'astronomie, mais qui met l'observation en plus, qui permettra de faire une véritable astronomie. D'ailleurs, il dit que c'est la science bien aboutie à mon époque. Après, il y a la physique. Après, il y a la chimie. Donc, après la chimie, il y a la spécificité par rapport à la physique. Il y a, à chaque fois, il dit que le domaine devient de plus en plus compliqué, donc il y a des nouvelles libertés qui apparaissent. Après, il y a biologie ou physiologie. Après, il y a la science sociale. Alors, au début, il appelle physique sociale comme Saint-Simon. Après, science sociale, il dit sociologie. Bon, là aussi, on dit qu'il n'a pas vraiment inventé le mot, mais il a vraiment fait travailler le concept de sociologie. Sociologie, sauf qu'après, il a institué en religion d'humanité. C'est quand même pas tout à fait la même chose, c'est tout à fait une science sociale. Et puis après, ça, c'est les six sciences. Pendant longtemps, il est resté à six sciences, jusqu'à ce qu'il découvre, là, c'est au moment où il devient positiviste complet, comme il dit, parlons comme lui, c'est-à-dire religieux, il découvre qu'il faut la septième science, mais qui est encore tout entièrement à construire, c'est la morale. Et la morale, elle viendra chapeauter toutes les autres sciences. Parce qu'il découvre quand même cette chose qui est quand même pas non plus complètement idiote. Le souci politique, par exemple, du pauvre, du déshérité, etc., etc. Vous ne pouvez pas simplement dire un point de vue d'économiste. C'est vrai que vous avez des gens, un problème par exemple les handicapés. De toute façon, ils apporteront moins à la société que la société doit leur apporter. Et chez Auguste Comte, c'est assez curieux parce qu'il a une théorie aussi des droits et des devoirs. Il dit qu'il faut enlever l'égalité. Il y a autre chose qu'il dit. Il faut enlever la conception des droits. Il est contre les droits de l'homme. Il dit l'être humain n'a aucun droit, il n'a que des devoirs. Ah oui, bah, l'handicapé dans son fauteuil, les devoirs... Il y a un moment où les choses doivent partir du cœur. C'est pas complètement faux, son idée. On la cherche encore, la construction d'une morale laïque. C'est pour ça que je dis, les questions sont toujours ouvertes. Elles sont toujours posées. Maintenant, les réponses, elles sont pas... Puisqu'il avait simplement donné des grands principes. À mon avis, la morale peut se construire qu'à plusieurs, collectivement.
Oui. Est-ce qu'il s'exprime sur les arts, en général?
Alors, si. Alors, lui, c'est pas trop les arts picturaux. C'est utiliser les arts littéraires. Il a théorisé qu'il fallait que les artistes soient un relais extrêmement puissant pour pouvoir introduire le positivisme dans l'éducation du prolétaire et du culte. Il disait le culte positiviste a besoin d'esthétique. Il avait cette conception très catholique aussi, hein, c'est-à-dire il faut frapper les sens, l'imagination.
Vous avez fait allusion tout à l'heure à des billets d'opéra ou des choses comme ça. Ah. Est-ce qu'on sait
c'était
à cause de son statut social,
c'était non. par goût, Non, non, alors goût. Auguste Comte, il avait une vie très frugale. De temps en temps, il y avait un petit cercle d'amis avec qui ils allaient manger une fois, je crois, par mois au restaurant. D'ailleurs, il donnait à sa bonne, parce qu'il avait une bonne. Il donnait à sa bonne congé ce jour-là. Il se permettait très peu de choses dans la vie, de vraiment passer son temps à étudier, à enseigner, cogiter. Et le plaisir, c'est Caroline qui lui a fait découvrir ce plaisir. C'est l'opéra italien. Pas beaucoup d'argent, mais du temps de côté de vous, il a même fait assez fort, parce qu'en fait, il louait ce qu'il appelle une stalle à l'année. Il a loué deux stalles. Il a invité assez généreusement la famille de Côté de Vaux. Il a fait venir le père de Côté de Vaux, qui était assez marrant, parce que lui, qui était d'ailleurs un capitaine des armées de Napoléon, bah, extrêmement cultivé, tout ça, mais il était très content de profiter quand même de la stalle que lui offrait Auguste Comte. Non, il aimait beaucoup l'opéra italien. Petite histoire, c'est que l'opéra italien, au départ, c'était tout simplement à l'Odéon. Et lui, il va dans le quartier d'Odéon en 1841, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais très très vite, l'opéra italien ira à la salle Le Pelletier.
Depuis la Révolution française, on était plutôt dans un cycle de sécularisation. Et lui, il arrive et il crée une religion.
Religion sans Dieu, attention. Hein. Alors le Dieu, c'est l'humanité dans son devenir. C'est un être collectif. C'est nous tous reliés avec, par le passé, par tous les morts. Alors, une formule un peu bizarre là aussi. Hein. Les vivants seront de plus en plus gouvernés par les morts. Enfin, peut-être concernés, mais gouvernés, c'est un peu fort. Tous ceux qui s'incorporent à l'humanité. L'humanité en elle-même, mais enfin c'est déjà la première idée de Leroux, mais il l'avait moins élaboré évidemment. Leroux dit à un moment, le catholicisme est épuisé, parce que tout le monde pense que le catholicisme est épuisé. En même temps, le catholicisme se régénère à cette époque, mais il ne le sait pas. Parce que Comte, il croit connaître beaucoup le catholicisme, il ne le connaît pas tant que ça. Il le connaît à travers la monnaie, qu'il n'aime pas vraiment, mais quand il écrit l'histoire, il a pas mal de préjugés quelque part. Mais voilà l'idée qui était quand même chez beaucoup, le catholicisme est épuisé, Romain a ramené Jésus à son statut d'homme. Eh ben, point final, qu'est-ce qu'on va en faire? Si on veut garder un esprit religieux, eh ben, on va exalter notre être collectif qu'est l'humanité.